28 janvier 1982, cinquième conférence.
Nous allons continuer d'entrer dans la métaphysique. On laisse de côté le péché. Pour le moment, il reviendra au galop. Mais on va essayer de continuer le point de vue métaphysique, c'est-à-dire de voir comment nous découvrons progressivement ce que c'est que l'ousia à partir du jugement d'existence avec l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est que l'exister, comme nous avions vu la dernière fois. Cette interrogation qui naît à partir de l'admiration, d'une admiration qui implique, qui peut impliquer certains éléments d'angoisse, c'est pas exclu, surtout dans le climat d'aujourd'hui, mais c'est évidemment avant tout le point de vue de l'admiration, c'est-à-dire d'un éveil affectif qui porte notre intelligence à aller jusqu'à l'extrême exigence de son appétit. Une intelligence qui interroge, c'est une intelligence en appétit, en recherche. Une intelligence qui veut la vérité, qui veut découvrir la vérité, qui veut aller le plus loin possible justement dans sa recherche. Alors quand cette recherche porte sur l'être, c'est évidemment l'intelligence qui, d'une certaine manière, s'interroge elle-même. Vous voyez, c'est ça qu'il faut considérer, le caractère tout à fait particulier de cette interrogation. Et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir une certaine angoisse. Puisque l'intelligence s'appuie sur l'être, ce qui est. En interrogeant, elle met en cause le fondement même sur lequel elle s'appuie. Et au fond, l'angoisse affective naît de là. Quand vous mettez en cause le fondement sur lequel vous appuyez. Si vous pouvez le mettre en cause, ça prouve que c'est bien un fondement. Or, l'intelligence, par le point de vue du jugement d'existence, s'appuie sur ce qui est. Ceci est. Et elle s'appuie sur ce ceci est. Or, en interrogeant et en demandant qu'est-ce que c'est que l'être regarde toutes les réalités. Ce n'est pas seulement telle ou telle réalité, mais c'est toute réalité. Et c'est celui-même qui interroge, qui est impliqué dedans. J'existe, je suis. Et donc, en interrogeant sur le point de vue qu'est-ce que c'est que l'être, c'est même le fondement de la vie de l'intelligence auquel on interroge. Or, dès qu'on interroge, il y a toujours une remise en question. Puisque s'il n'y a pas de remise en question, on n'interroge pas. Dans l'interrogation, il y a une remise en question. Et pensez au levier, si vous voulez. On fait manœuvrer le levier pour soulever. C'est ça que je fais en interrogeant. Je soulève. Je soulève l'être avec tout son poids. Et j'essaie de voir qu'est-ce que c'est. Alors c'est sans doute là où peut, dans l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, s'infiltrer un peu d'angoisse. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut que tout de suite cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, ramène à ce qui est. Parce que si il y a un peu d'angoisse, du fait même qu'il y a une mise en question du fondement même de mon jugement d'existence, et donc du fondement même de mon intelligence, très facilement, à ce moment-là, il peut y avoir comme une sorte de remise en question radicale de tout. Et c'est cette remise en question radicale de tout qui fait que il y a affectivement une angoisse. Parce que je n'ai plus rien sur lequel je peux m'appuyer. quand je n'ai plus rien sur lequel je peux m'appuyer, il y a une espèce d'angoisse. Alors, l'angoisse est double, voyez. Elle vient du fait que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» met en question même le sujet pensant. D'habitude, quand je vis tout simplement, tout bonnement, hein, la réalité existe, je m'appuie sur ces réalités, je les considère. Tandis que lorsque j'interroge « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je remets en question même le fondement d'intelligence. Donc c'est du côté du fondement et aussi c'est du côté ultime de la vie de l'intelligence. L'intelligence, tout ce qu'elle l'atteint, l'atteint dans la ligne de l'être. Donc c'est aussi ce qu'il y a d'ultime. Ce n'est pas Dieu quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, mais c'est ce qu'il y a d'ultime. Jusqu'où mon intelligence peut-elle aller? Et donc à ce point de vue-là, il y a aussi une petite source d'angoisse, comme si on allait remonter indéfiniment. C'est vrai que l'être n'est pas limité. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, il n'y a pas de limite. Et quand je suis en face de quelque chose qui n'a pas de limite, il y a encore une possibilité d'angoisse. Vous voyez, c'est même les deux sources d'angoisse. C'est par le point de vue du fondement et par le point de vue ultime et dernier. L'angoisse, c'est la perte de toutes les déterminations. Pas? Dès qu'il y a une détermination, on n'est plus angoissé. Un tempérament angoissé doit toujours rester en face d'une détermination. Parce qu'autrement, il perd pied. Vous voyez? La détermination implique quelque chose sur lequel je m'appuie. C'est pour ça que c'est très important. Vous voyez, j'avais insisté là-dessus. C'est très important de comprendre que cette interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» maintient la signification dans l'ordre de l'être, maintient la signification du jugement d'existence, ceci est. Si la signification de « qu'est-ce que c'est que l'être ?» donnait à l'être une nouvelle signification de ceci est, alors l'angoisse m'envelopperait immédiatement. Vous voyez bien ça, j'espère. C'est important parce que c'est peut-être là où on rejoint, voyez, le point de vue de notre conditionnement moderne par rapport à la métaphysique. Puisque toute la métaphysique aujourd'hui est enveloppée d'angoisse. Alors on respire cet air-là, même si on n'a pas lu Heidegger, on respire cet air-là. Toute la métaphysique depuis Kierkegaard est enveloppée d'angoisse. Alors, c'est quand même intéressant de voir comment ça se fait. Il n'y a jamais une erreur pure, il n'y a jamais purement négatif. Il y a un petit quelque chose. Alors, il faut le déceler pour ne pas tomber dedans, comme toujours. Dès qu'on l'a décelé, on ne tombe plus dedans, on sait comment ça vient. Alors, j'essaie, un petit peu en fonction de la question qui avait été posée hier, avant-hier, que je reprends ça, parce que je crois que c'est quand même important. Alors, je reprends ceci fait, de façon perdre pas de temps, parce qu'on est toujours dans des choses ici très très fondamentales. Qu'est-ce l'être? Alors, je vous disais, qu'est-ce l'être, mais naissez de ce halo affectif d'admiration. Une interrogation, c'est toujours l'intelligence qui, dans sa fragilité, se manifeste. La fragilité de la pauvreté de l'intelligence qui cherche. Même pas beaucoup d'avouer qu'on ne sait pas. Même pas beaucoup, on aime mieux dire qu'on sait. Dès qu'on avoue, qu'on dit qu'on ne sait pas, ben soi-même, ben, on devient fragile. Alors, un être fragile doit être enveloppé d'affectivité. Il est enveloppé de cette affectivité d'admiration. Quand on est enveloppé d'admiration, on peut tout dire. Et l'intelligence est enveloppée de cette admiration pour pouvoir interroger de son interrogation la plus fondamentale par où elle avoue sa plus grande pauvreté. La plus grande pauvreté d'intelligence est en disant qu'est-ce que c'est que l'être. C'est la plus grande pauvreté d'intelligence parce qu'elle sait qu'elle ne sait rien si l'être lui échappe. Et c'est vrai. Si elle ne sait pas ce que c'est la réalité, elle ne sait plus rien. Elle construit cérébralement. C'est tout gros. Donc c'est la plus grande pauvreté. Ça serait intéressant à bien creuser, ça pourrait être tout creusé, le thème de philosophie. Mais au fond, ce serait très intéressant, parce que c'est quand même quelque chose, au point de vue spirituel, pour nous, c'est quand même très important. Parce que si l'intelligence avoue sa pauvreté, l'intelligence ne peut jamais être rivale de l'amour. L'intelligence est rivale de l'amour dans la mesure où, justement, elle s'enorgueillit. Or, s'appauvrir, c'est juste l'inverse. Hein. Ce serait la grande manière de supprimer tout orgueil intellectuel. Tout orgueil intellectuel se supprime dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Poser vraiment, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je suis dans cette attitude que je ne peux vivre que si je découvre ce que c'est que l'être. Tant que je ne l'ai pas découvert, je sais que je suis dans un état d'indigence et de pauvreté radicale. Je n'ai pas ma nourriture, je n'ai pas mon bien. Et donc je suis dans un état radical de pauvreté. Oui, ça c'est l'indigence. Et alors dès qu'on découvre cette pauvreté, dès qu'on découvre cette pauvreté très grande, si on n'est pas très enveloppé d'admiration, de l'admiration qui porte sur l'être, hein, pas sur moi, sur l'être, mais c'est l'être que j'admire, cette chose inouïe, que j'existe. Et que toutes les réalités qui sont autour de moi existent. Et que l'être comme tel, que je saisis là, n'a pas de limite. Il est sans limite. Il est sans limite. Mais il a une détermination. Il a cette détermination, ceci est. Alors, si je suis coupé de cette détermination, ceci est, et que je le vois sans limite, l'être va m'angoisser. Oui, alors je passe de l'admiration à l'angoisse. Très curieux, ça. Oui, et c'est vrai, ça, je crois qu'il est tout à fait juste, et si on étudie attentivement, on verrait qu'en effet, ce qui est sans limite devient un gouffre, un abîme. Et là, ça m'angoisse. Tandis que si la signification de qu'est-ce que c'est que l'être reste liée au jugement d'existence, ceci est. Il a une détermination. Et parce qu'il a une détermination, le sans limite n'apporte pas l'angoisse. Parce qu'il est déterminé avec cette réalité que je touche, que j'atteins. Une réalité à laquelle je suis parti, et moi-même. Parce que si cette réalité, ce jugement d'existence, ceci est déterminé, je suis moi-même dans ce jugement d'existence. Moi, j'existe, je suis. Donc je suis déterminé. C'est tous les jugements d'existence qui sont portés là. C'est toutes les réalités que je vois qui sont déterminées. Elles existent. Elles sont ceci, la détermination qui existe. Et le ceci ne détruit pas l'être. Ou plutôt, et ne détruit pas le ceci. L'être ne détruit pas la détermination. L'être est au-delà des déterminations, mais l'être n'est pas rival de la détermination. Vous voyez, tandis que dans Heidegger, et ça c'est la pensée moderne, Heidegger reflète parfaitement la pensée moderne. Dans Heidegger, la détermination est rivale de l'être, ou l'être est rivale de la détermination. Et c'est pour ça qu'il faut supprimer tous les étangs pour que l'être apparaisse. Et donc il faut la néantisation pour que l'être apparaisse. Et alors l'être apparaît dans l'angoisse. Et si l'être apparaît dans l'angoisse, je ne peux plus rien dire. Et c'est pour ça pour Heidegger, uniquement la seule question c'est de dire... Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je ne peux plus rien dire d'autre. Et il le dit, alors je suis à ce moment-là en attente que l'être, s'il existe, un être absolu, il me parle. C'est très beau, mais c'est aussi terrible aussi au point de vue de l'intelligence. Vous voyez ? Si l'être, il est en attente, on est en attente. On attend que Dieu parle, pas l'être. Parce que pour Heidegger, l'être n'est pas Dieu, hein. C'est l'être infini, oui.
Alors justement, quand on pense à l'être absolu, qui est illimité, infini, on retrouve ce qu'on veut.
Oui, attention, non. Parce que Dieu, c'est l'être parfaitement déterminé. Oui. C'est l'être qui est au-dessus de toutes les déterminations, mais qui est parfaitement déterminé. C'est pour ça que la première qualité, le premier attribut de Dieu, c'est la simplicité de Dieu. Vous voyez ? Alors, vous touchez là un point de vue qui est au fond très curieux et très intéressant. Saint Thomas dit que la première qualité de Dieu, c'est la simplicité. Puis il dit que Dieu est infini. Et immédiatement après Saint Thomas, on n'a plus mis la simplicité comme première qualité, comme premier attribut de Dieu, mais on a mis l'infini. Dont Scott, Descartes. Et alors Dieu est devenu terrifiant. On ne peut plus le contempler. Si Dieu est premièrement infini, je ne peux plus le contempler. Il devient l'abîme dans lequel, où je me perds alors dans un amour, mais au fond je me perds. Et donc il angoisse. Tandis que si je comprends que Dieu est premièrement la simplicité absolue, il est la détermination absolue, et je peux le contempler. Ça, c'est un point de vue qui est très curieux aussi, qui est très intéressant, parce que je crois que c'est en effet ce problème. Vous voyez, je mets ici l'être premier, alors, l'être premier, Dieu. Dans la perspective de saint Thomas, et saint Thomas, là, est dans la perspective de tous les pères de l'Église. Saint Thomas clôt les pères de l'Église, en fait, lumière sur Dieu. Aucun père de l'Église n'a dit que la qualité première de Dieu, c'était l'infini. Aucun. Ça, je l'ai fait l'enquête. Aucun. Ils ont dit, Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment savant, la sagesse infinie de Dieu. Et, vous voyez, il n'y a pas. Mais au fond, c'est jamais l'infini qui est premier. Saint Thomas dit, premier attribut de Dieu, Dieu est la simplicité. Et quand saint Thomas dit que c'est la simplicité, ça veut dire que Dieu est acte pur. Il est l'ipsum esse subsistens. C'est la fameuse expression de saint Thomas que le père Garnier aimait tellement. L'ipsum esse subsistens. C'est très très beau. Dieu est l'essai qui subsiste, c'est-à-dire qu'il est l'acte d'être qui subsiste en lui-même. Il est l'ipsum esse subsistens. Il est absolument saint. S'il est absolument simple, il est celui qui est source de toutes les déterminations et source de tout acte. C'est pour ça que dès que je découvre Dieu, j'ai le roc. Et c'est l'expression de l'Écriture, hein, quand on dit que Dieu est le roc. Dieu est mon rocher. Dieu est mon abri. Donc je m'appuie sur lui. Et mon intelligence trouve alors, dans la découverte de l'existence de Dieu, un appui beaucoup plus fort que dans le jugement d'existence aussi est. Vous comprenez bien. Là, c'est le jugement d'existence suprême. Dieu existe. Il existe un être premier dont l'être est lui-même. Donc, il est ipsum esse subsistens. Et puis alors, saint Thomas dit ensuite, Dieu est absolument parfait, Dieu est absolument bon, et Dieu est infini. Ça vient en quatrième position. Dieu est infini. Et saint Thomas est le premier, je crois, à dire Dieu est infini, comme attribut, comme manière d'exister de Dieu. Avant lui, on disait Dieu a une puissance infinie, Dieu a une connaissance illimitée, Dieu, et ainsi de suite. On ne disait pas comme manière d'exister de Dieu, il est infini. Quand on dit infini, on dit il est sans limite. C'est ça l'infini, il est sans limite. Eh bien, immédiatement après saint Thomas, je prends Don Scott, prend comme premier attribut de Dieu l'infini. Ça n'a l'air de rien, mais ça ouvre toutes les portes au panthéisme. Dès que je dis que le premier attribut de Dieu c'est l'infini, ça ouvre toutes les portes au panthéisme. Don Scott, Descartes. Premier attribut de Dieu, l'infini. Donc Dieu est infini sans limite. D'où c'est un Dieu angoissant. À partir de là, je mets un Dieu angoissant. Un Dieu qui, à la place de me reposer, m'angoisse. Or, Dieu, en tant que Père, est le lieu du repos. Il est le lieu du repos de ses enfants. Le Père aime que les enfants viennent se reposer auprès de lui. En tant que Père. Un père qui est source d'angoisse n'est pas un père. Un père angoissant. Il suffit qu'on soit là pour qu'on soit angoissé. C'est pas ça du tout. Il suffit qu'il soit là pour qu'on soit rassuré. Et c'est ça le rôle du père. Hein. Il est avant tout celui qui est source de repos. Parce qu'il est simple. C'est la simplicité permet qu'on se repose, c'est le roc. Tandis que si je mets l'infini en premier lieu, cette simplicité implique l'infini, c'est bien évident, il ne faut pas mettre d'opposition. Mais il faut comprendre que pour nous, Dieu est premièrement l'acte pur, celui en qui je m'appuie. Celui qui est source d'espérance pour moi. Celui qui est source de repos et de paix. Parce qu'il est simple, absolument simple. Pas de division en lui. Oui. La division est toujours tendue. Tandis que si je prends le point de vue de l'infini, alors ça devient celui qui, en qui je ne peux pas me reposer. Je ne me repose pas dans l'infini. C'est l'abîme, sans fond. Vous savez bien tous les cauchemars. Tous les cauchemars, ça croule, rien qui m'arrête. Hein. Rien, absolument rien. Ça croule. C'est ça l'abîme. Hein. Alors, l'abîme, quand il est mis en premier lieu, quand il est mis dans la simplicité, ça va très bien. Mais quand il est mis en premier lieu, et ça, c'est de fait, c'est ce qui a existé. Comment l'angoisse a pénétré dans la philosophie, c'est parce qu'on a regardé Dieu premièrement comme infini. Alors, à partir de là, l'angoisse est vrai. Il n'y avait plus aucun lieu sur lequel on peut se reposer. Oui. Ça, je crois que c'est très, très important, parce que c'est peut-être ça qui fait comprendre, voyez, comment l'angoisse a pénétré dans la philosophie. Parce que, de fait, en mettant l'infini en premier lieu, on ne mettait plus de lieu de repos d'intelligence. Alors l'intelligence pouvait aller indéfiniment. D'où la relativité absolue. Si c'est infini, tout est relatif. C'est pour ça que saint Thomas dit tout le temps, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Le non regressus infinitum. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Tandis que si Dieu est infini et que je regarde, on peut remonter à l'infini. Mais si le caractère propre de Dieu, c'est d'être infini, de supprimer toutes les limites, si c'est le caractère propre de Dieu, ou je tombe dans le panthéisme, ou je tombe dans l'angoisse. Et dans le panthéisme, on sait très bien, le panthéisme, c'est terrible, parce que c'est plus Dieu. Hein. Ce n'est plus le Père. Le panthéisme, c'est Dieu camarade. C'est ça, parce que je suis Dieu. Dans le panthéisme, je suis Dieu. Ah, si je suis Dieu, c'est plus Dieu. C'est la démocratie à l'intérieur de la divinité. Et c'est très vrai que l'infini engendre les deux. Ou le panthéisme, ou le point de vue, justement, de cette espèce d'angoisse de l'abîme. Alors que si vous mettez la simplicité, et voyez, la simplicité provient du fait que dit Dieu est acte pur, ipsum esse subsistens. Je retrouve ici la même chose, vous voyez. Si je prends l'être coupé du jugement d'existence et le considérant comme sans limite, en premier lieu, je perds le point d'appui et l'angoisse pénètre dans mon intelligence. Et je suis angoissé. Alors, comprenons bien. Quand je pose l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Il y a un lien avec ceci est, de sorte que je peux mettre en cause ceci est, je peux mettre en cause moi-même, mon intelligence, j'interroge, et j'interroge en tant que je suis, je peux me mettre en cause, mais en second lieu parce que je m'appuie sur le jugement de l'existence. Mais je vois très bien comment, lorsque je coupe la signification, qu'est-ce que c'est que l'être, de la signification du jugement d'existence, lorsque je considère que, dans l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, l'être a une signification tout autre que dans le jugement d'existence, à ce moment-là, c'est l'infini qui pénètre et c'est l'angoisse. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une dimension esthétique qui empêche de revenir au jugement d'existence ?
Oui, je crois que c'est plus qu'une dimension esthétique, hein. Vous voyez, c'est bien, la dimension esthétique sera là. C'est au fond la subjectivité transcendantale. Vous voyez, et je suis tout à fait d'accord avec vous que la subjectivité transcendantale n'a toute sa signification que dans la créativité, donc que dans le point de vue de l'inspiration. Oui. Donc, en définitive, c'est très vrai. C'est bien le point de vue esthétique. Mais c'est la subjectivité transcendantale qui permet, qui en premier lieu fait que en réfléchissant sur l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, je vois que l'intelligence se pose à elle-même cette propre question, se mettant elle-même en doute et voulant donner à l'être sa propre signification. Oui. Donc je suis en face de la subjectivité transcendantale, mettre le sujet en premier lieu. Le sujet dans sa transcendance. Et mettre le sujet dans sa transcendance, vous voyez, point de vue esthétique, engendre l'angoisse. C'est très vrai que l'angoisse n'a fait... Vous voyez, il y a les deux sources d'angoisse, hein, si on voulait. Les deux sources de l'angoisse d'aujourd'hui, c'est quand même important, parce que cette angoisse métaphysique, cette angoisse que les philosophes appellent l'angoisse métaphysique, a pénétré partout. Le monde est angoissé aujourd'hui. Bon, on sait très bien. Alors, il y a les deux sources de l'angoisse, vous voyez. La source du côté théologique, mettre l'infini en premier lieu. La source philosophique, Kant. C'est Descartes et Kant. Descartes et Kant ont été les deux qui ont été les sources de l'angoisse moderne. Ça serait intéressant à bien creuser. Par le point de vue de la subjectivité transcendantale, Kant. Par le point de vue de l'infini en premier lieu, Descartes. Les deux sources, les deux points de départ.
Mais est-ce que c'est pas aussi à ce moment-là où on a un peu bloqué être et être avec un grand E, mais ce reste de l'être est fini à vie.
Oui, ça revient au même. Ça revient au même, parce qu'alors à ce moment-là, vous voyez, l'être sans limite, c'est donc l'être. S'il est sans limite, je peux plus distinguer. Ce qu'il est sans limite, je peux plus distinguer. Vous voyez ? La signification, et c'est ce qu'on dira, qu'est-ce que c'est que l'être ? On parlera alors à ce moment-là du concept d'être qui est fini et infini. Suarez. Et la signature de tous les grands. La Suarez. Toute la métaphysique commence par le concept d'être fini et infini. Et au fond, quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», j'ai un concept d'être fini, infini. Et vous voyez, ça a été jusque Maritain. Maritain reprend ça de Suarez sans s'apercevoir que c'est de Suarez et pas de Saint-Thomas. Et il le reprend comme si c'était la grande découverte. Le concept d'être est fini, infini. Et alors à partir de ce moment-là, on ne peut plus penser. Parce que vous n'avez pas un concept d'être infini. Un concept d'être infini, mais votre intelligence dans l'angoisse. Tandis que si vous comprenez que votre vie intellectuelle commence par le jugement d'existence, ceci est, et que vous revenez toujours à cela, et vous n'avez pas un concept d'être infini, vous avez un concept d'être déterminé, actué, sans limite. C'est pas la même chose. Il a d'abord une signification par rapport à la réalité. Il se réfère d'abord à une réalité existante. Il se réfère d'abord à moi existant et à la réalité existante. C'est vrai qu'il est sans limite, c'est très vrai. Mais il n'est pas positivement infini. Tandis que là, je mets l'être fini et infini. C'est une espèce de blocage qui s'est fait là entre le point de vue philosophique et le point de vue théologique. C'est Suarez. Bon. C'est suffisant, je crois que c'est important ce passage, hein. C'est capital, de voir le point de vue d'admiration qui enveloppe la faiblesse et la fragilité de l'intelligence qui interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Ça c'est très beau, l'état natif de l'intelligence. Et l'intelligence là accepte de tout remettre en question et de tout reprendre. C'est quand même quelque chose de merveilleux ça. Et quand vous vous posez cette question-là, tout le reste, toutes les connaissances que vous avez, tout cela tombe et vous revenez à la racine de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est à partir de là que l'intelligence peut redevenir contemplative, hein, parce qu'elle est dans un état de réceptivité absolue. Tant qu'elle n'est pas dans cet état de réceptivité absolue, elle ne peut pas être contemplative. Hein. L'intelligence reste positive. Tandis que quand elle pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», elle reconnaît sa faiblesse native, tabula rasa, sa faiblesse native. Elle est un appétit de vérité. Elle ne possède pas la vérité. C'est la possession de la vérité qui est une fausse sécurité. L'intelligence cherche. Elle possède certaines déterminations. Elle ne possède pas la vérité. Elle arrive dans cet état de pureté, de limpidité du début. Poser qu'est-ce que c'est que l'être. C'est très beau ça. à découvrir au point de vue proprement capacité contemplative, vous voyez. Elle s'ouvre, elle ne contemple pas quand elle interroge. Comprenons bien, elle ne contemple pas, mais elle s'ouvre à la contemplation. La contemplation n'est pas fermée. Vous n'avez pas une intelligence qui dirige, vous n'avez pas une intelligence qui domine, vous n'avez pas une intelligence qui dit « seul ce que je connais est intelligent ». Non, pas du tout, au contraire. Je sais que la réalité, c'est elle qui doit me révéler profondément ce que je suis. Et c'est l'autre qui se révèle à moi. Ce n'est pas moi qui m'impose à l'autre. Bon, quand je suis donc dans cette interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je suis en face de cette interrogation radicale qui m'oblige de revenir à la réalité, au jugement d'existence, ceci est. Et c'est ici où, pour répondre à cette réalité « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je dois comprendre que l'être est au-delà de toutes les catégories. Et donc je ne peux répondre vraiment à « qu'est-ce que c'est que l'être ?» dans la mesure où je dépasse toutes les catégories. Alors je vais avec vous essayer de voir qu'est-ce que c'est que les catégories. C'est intéressant. C'est un petit nota bene, si vous voulez, parce que ça présupposerait déjà être connu. Mais c'est intéressant de se rappeler qu'est-ce que c'est que les catégories. Parce que c'est une chose à laquelle il faut tout le temps revenir. Qu'est-ce que c'est que les catégories? Alors, les catégories, c'est Aristote qui les a systématisées, mais il ne faut pas croire que les catégories viennent d'Aristote. Les catégories viennent dès le moment que l'homme s'est mis à parler. Dans toute langue, il y a des catégories. Qu'est-ce que c'est que les catégories? C'est le relevé tout simple de l'état de notre langage. Comprenons bien. Quand vous regardez le langage, vous voyez que dans votre langage, vous attribuez certaines choses à certains noms. Preuve de l'attribution. Pierre est intelligent. Pierre est bon. Jacques est mauvais. Pierre est... Et architecte. Il est architecte, il habite tel lieu, il habite tel temps. Vous avez les 10 catégories. Ça, il faut les retrouver soi-même, les 10 catégories. C'est très facile dans une petite analyse grammaticale. Dans une analyse grammaticale, vous retrouvez les 10 catégories. Alors, je les donne ici, vous les connaissez, mais on va voir tout de suite comment l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» m'oblige de dépasser toutes les catégories pour arriver à ce qui est la source cachée des catégories. Alors, donc, les catégories sont, première catégorie, la substance. Alors, vous voyez, c'est ça qui est quelque chose de terrible. C'est que le mot substance, ousia en grec, va avoir des significations très différentes. On aurait dû, évidemment, donner un mot différent. Substance catégorie, substance métaphysique. Mais d'autre part, c'est très compréhensible, parce que notre langage n'est pas métaphysique. Notre langage est au niveau utilitaire. C'est ça notre langage, est au niveau utilitaire. Donc c'est tout à fait normal que nos mots courants soient transposés en métaphysique. Autrement, on devrait avoir un langage métaphysique qui ne serait que rien du tout. Il faut que, puisque la métaphysique, c'est toujours trans, méta. C'est trans, c'est ce qui est au-delà, ce qui est au-dessus. Exactement comme le jugement d'existence est trans-expérience. Il est au-delà de l'expérience. Eh bien, toujours, tout est au-delà de l'expérience. Mais en même temps, c'est toujours lié à l'expérience. Alors, si je prenais un nouveau mot, j'aurais le cheval en soi. Le cheval en soi, comme si le cheval en soi n'était pas coupé, n'était pas relié à tel ou tel cheval. Alors, pour bien montrer qu'il est relié à tel ou tel cheval, je n'emploie pas un nouveau mot. J'ai tout simplement le même mot qui est transposé au point de vue métaphysique. Bon, alors, j'ai au point de vue catégorique la substance. La substance première, la substance seconde, la substance troisième. Trois positions de la substance. La substance première, c'est le sujet. C'est Pierre. C'est toujours Pierre qui est le roc. Alors, parce que c'est Pierre qui est le roc, c'est le sujet parfait. Képhas, hein, qui custera le roc sur lequel tout s'appuie. Alors, tout s'appuie là-dessus, c'est Pierre. Pierre, c'est le sujet, c'est la substance première. Aristote dira que c'est le taux d'éthique. Taux d'éthique, c'est-à-dire Pierre implique une certaine détermination, un certain type, un taux d'éthique, un certain type, une certaine détermination, mais une détermination qui est tout à fait particulière parce que c'est une détermination qui ne s'attribue à rien d'autre. C'est le nom. Pierre, c'est le nom auquel tout le reste est attribué et que lui-même n'est attribué à personne. C'est le propre du sujet. La substance seconde, c'est ce qui est attribué en premier lieu à Pierre. Qu'est-ce qui est attribué en premier lieu à Pierre? Homme. C'est homme qui est attribué en premier lieu. Ça, c'est la substance seconde. Et la substance seconde va exprimer ce qu'est Pierre. Ce qu'est Pierre. Pas, c'est pas le taux d'éthique, c'est le tinesti. Ce qu'est Pierre, il est homme. La substance troisième va exprimer ce qu'est Pierre fondamentalement dans son tinesti, c'est-à-dire animal. Pierre est un animal. Pierre est un homme, Pierre est un animal. Animal exprime le genre, c'est le genre. C'est intéressant, vous voyez, de voir que c'est le point de vue, substance troisième, ça exprime justement quelque chose de... C'est attribué à Pierre d'une manière essentielle, mais d'une manière qui n'est pas propre. Une manière essentielle et commune. Je peux dire que le chien aussi est un animal. Pierre et le chien communiquent dans l'animal. Mais il y a un œcuménisme particulier qui vient du genre. Qui n'est pas celui de Dieu, hein, qui est celui de l'homme. L'homme fabrique un œcuménisme en écartant toutes les choses qui sont propres à chacun et en prenant ce qui est commun. Oui. Alors, on fera cet œcuménisme particulier de cette façon-là. Quelqu'un disait, il pensait, mais c'est d'autres jours, c'était une conversation comme ça, quelqu'un pensait, il était au moulier dans un collège. Alors il a dit, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a des autres, donc il faut que l'oratoire soit commun à tous. Donc il faut qu'un musulman puisse entrer dans cet oratoire, qu'un protestant puisse entrer dans cet oratoire, qu'un catholique puisse entrer dans cet oratoire, et qu'il se trouve chez lui. Donc supprimons tout ce qui est propre aux catholiques, tout ce qui est propre aux protestants, tout ce qui est propre aux musulmans, et arrivons à la donnée générique. Alors, il avait dit qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est de mettre un siège. Je l'affirme, il l'a ramené. Il était très fier de son idée. Il aurait voulu que tous fassent ça. Elle a dit, le communisme est fait. Il y a un siège. Alors, vous entrez, vous avez un siège, la lumière. La lumière symbolique pour le musulman, symbolique pour le protestant, symbolique pour le catholique. Alors le symbolisme est différent. Alors, vous voyez, c'est très matériel comme jeu. Le symbolisme est différent, mais au fond, vous avez respecté la sensibilité de chacun. Oui. Bon, que ce soit un point de départ, je comprends, ça peut être un point de départ. Ça peut être un point de départ apologétique. Mais un point de départ auquel il faut très très vite dépasser. Parce que si vous restez là, vous nivelez tout. Vous voyez, c'est la substance troisième position. Troisième position, c'est le genre. Bon. Alors après la substance, vous avez la quantité. Vous avez la qualité. On va voir très rapidement, mais ça va être très intéressant de voir ça. Le dépassement de la substance. Le dépassement, qu'est-ce que c'est que l'être par rapport aux catégories? Vous voyez bien, qu'est-ce que c'est que l'être par rapport aux catégories? Parce que c'est la première chose que je fais. En disant qu'est-ce que c'est que l'être, je connais un peu les catégories. Les catégories, je les connais dès que je fais une analyse très simple de la réalité. Par le mode du langage. Oui, c'est très moderne en même temps. Parce que c'est par le mode du langage. Donc, qualité, quantité, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai la relation, j'ai l'action, j'ai la passion. Alors il faut les compter parce que vraiment on les étend. 6. Puis alors après, 7, j'ai le lieu, 8, j'ai le temps, 9, j'ai le situs, 10, j'ai ce qu'on appelle le fourre-tout. Hein, c'est l'habitus. On va expliquer ça en quelques mots. Bon, ça, les catégories, on peut tous les savoir. C'est très facile à le faire. Hein, c'est très facile. Faites une analyse du langage, vous verrez tout de suite que vous avez 10 catégories. Vous n'en avez pas plus. On n'en a pas ajouté depuis Aristote. Je sais bien que dans l'habitus, on pourrait en ajouter. On pourrait ajouter des sous. N'est-ce pas ? Vous voyez, l'habitus, c'est très simple. C'est ce qui m'appartient. La pipe à l'égard de celui qui fume. Vous voyez ? L'outil à l'égard de celui qui s'en sert. C'est la marque que vous mettez en servant une chose. Ça devient votre bien, votre propriété. Au moment, à douzoum, parce que la vie religieuse respecte la propriété, je dis simplement à douzoum. C'est à votre usage, c'est pas votre propriété, c'est à votre usage. Et c'est très métaphysique en disant ça. On revient à l'habitude. C'est à votre usage. Vous usez de cet outil. Du fait même que vous usez cet outil, vous le marquez de votre manière de vous en servir. Un autre viendra après vous, il s'en servira autrement que vous. Et c'est pour ça que si l'outil est très fragile, un seul a le droit d'utiliser. Parce qu'on sait très bien que si un autre l'utilise, comme cet outil est très fragile et qu'il coûte très cher, ça représente un gros manque. Alors un seul a le droit d'utiliser. Parce qu'un autre l'utilisera à sa manière, il mettra sa griffe. Peut-être très intelligente, mais il mettra sa griffe. Et si sa griffe est une griffe d'ours, alors à ce moment-là, l'outil craquera. Bon, tout simplement. Le simple fait qu'un outil très très privilégié soit manœuvré par diverses mains, ça l'abîme. C'est ce que disent les gens pour les autos. Hein, dès qu'une auto est conduite par plusieurs chauffeurs, elle s'abîme beaucoup plus vite. C'est très bien. Surtout, pas les deux chevaux, c'est une bonne importance, mais les deux chevaux, les VV, tout ça, c'est omnibus, c'est l'auto. Mais une auto, si vous prenez... c'est très intéressant, cette habitude. C'est très intéressant parce que c'est la manière dont vous utilisez de votre vêtement. La manière dont on utilise le vêtement, la manière dont on utilise son porte-plume, la manière dont on l'utilise. C'est pour ça que c'est le prédicament qui est propre à l'homme. Parce que quand vous mettez un petit vêtement à un chien, le chien ne l'utilise pas. C'est le maître qui utilise ce vêtement pour le chien. Donc c'est pas le chien qui ne se le met pas. Un singe arrive peut-être quelquefois à faire la chose, mais il le fait très mal. Hein? Il l'utilise très mal, tandis que l'homme utilise, il sait utiliser tout ce qui est son avoir. Vous voyez? Et la manière dont on utilise fait caractériser tout de suite, vous voyez, au fond, c'est le fondement du droit de propriété. C'est très très intéressant. Même au point de vue de la pauvreté, il y aurait des quantités de choses à voir là-dessus. Parce que c'est le fondement du droit. C'est difficile d'être pauvre, de ne rien avoir. Et on garde le fondement de la propriété. Alors vous voyez que ça pousse. Hein? Quelqu'un qui travaille très très bien, qui a une habileté énorme, mais son droit de propriété revient très très vite, à travers son travail. Parce qu'il sait qu'il a un travail qualitatif. Alors vous voyez, ça c'est l'habitude. C'est un petit être qui pousse d'une manière très particulière et qui caractérise. Oui.
Est-ce que c'est pas aussi ce qui modifie le sujet ?
Oui, ça le modifie dans l'exercice. Et c'est par l'exercice qu'il le modifie. Oui. Vous modifiez votre vêtement du fait même que vous le portez. Et ce vêtement, il a été porté. Votre stylo, c'est la même chose. Vous l'utilisez et en l'utilisant, vous l'abîmez ou vous le rendez plus qualifié. Vous lui donnez une qualité plus grande. Parce que si vous êtes un saint, votre stylo sera porté dans un musée et on dira c'est le stylo de tel saint. Vous voyez ? Alors le stylo aura quelque chose de la saveur du saint. Hein ? Donc vous le modifiez. Oh, vous êtes modifié aussi, mais vous le modifiez aussi parce que le bon stylo restera en saveur de sainteté. Donc vous le modifiez aussi, vous êtes modifié par lui et vous le modifiez, c'est réciproque. C'est pour ça que je prends l'exercice. L'exercice de la chose, vous voyez, qui est le fondement du droit de propriété. C'est l'exercice qui est le fondement du droit de propriété. Le droit de propriété ne vient qu'après. Une réalité dont on ne s'est jamais servi, au fond, ne nous appartient qu'en référence de celui qui s'en est servi, notre arrière-grand-père. Notre arrière-grand-père s'en est servi, alors il y a le patrimoine. Vous voyez, c'est très curieux cette idée du patrimoine. C'est parce qu'au fond, l'arrière-grand-père s'en est servi. Alors lui, il s'en est servi. Et puis, entre deux, personne ne s'en est servi. Alors, droit de propriété. Alors, on comprend très bien que dans une civilisation comme la nôtre, où on télescope tout, parce que tout va très vite, on n'a aucune envie de garder ça. Et la propriété, et c'est uniquement le point de vue de ce qui immédiatement est à notre service. C'est intéressant, mais ça c'est autre chose, ça, une autre considération. Bon, alors, je vais regarder maintenant. Quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être, les catégories expriment quoi? Expriment des modes particuliers de l'être. Des modes de ce qui est, c'est-à-dire les déterminations tout à fait premières, tout à fait propres de ce qui est. L'être physique, la réalité physique, la réalité sensible que je vois, implique ces 10 déterminations, c'est-à-dire l'homme. C'est l'homme qui m'intéresse, hein. La philosophie cherche que c'est l'homme. Eh bien, l'homme implique ces 10 déterminations. Je suis un sujet, c'est bien évident. J'existe. Je suis un sujet. Je suis tel sujet, c'est-à-dire l'homme. Je suis un être qui a telle quantité. Ça fait partie de ma détermination. Qui se pèse, se connaît. Non. Alors, qui se pèse, se connaît. La quantité me fait connaître ce que je suis. Je suis un être qui a telle qualité. Ma qualité propre, autant que possible. Dans cette communauté, je suis le seul à pouvoir faire ça. Qualité. La qualité me donne quelque chose de très spécial. Puisque je suis le seul, je suis très content d'être le seul. Si j'anéantre quelqu'un qui a la même qualité que moi, ou une qualité supérieure que moi dans ce domaine-là, alors je suis tout de suite relativisé. Tandis que tant qu'il n'est pas là, je suis seul. C'est la qualité, ça, c'est la noblesse, nobilitas, la qualité, ça.